Bienvenue dans notre podcast réalisé avec la Chambre des notaires du Bas-Rhin. Avec nous, Maître Christine Abscheid, pour présenter le dispositif de la vente de maisons ou appartements sur plan. C'est la VEFA. La VEFA, ça signifie la vente en l'état futur d'achèvement. On achète alors que la construction a à peine démarré. Alors, acheter sur plan en VEFA, c'est pouvoir profiter d'un bien sur mesure, personnalisé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des visites virtuelles hein, en 3D qui permettent de s'imaginer aisément à quoi va ressembler son futur appartement. Et parmi les avantages, Maître, il y a aussi une fiscalité très intéressante.
Oui, alors effectivement, une fiscalité très intéressante puisque lorsque vous avez des clients qui procèdent à cette acquisition en l'état futur d'achèvement, comme vous l'avez très bien dit, donc on est sur plan, en cours de construction, un des grands intérêts, c'est la fiscalité. Puisque le client qui va acheter ne va payer que 0,715% à titre d'impôt sur le prix hors taxe de son bien. Et pour vous donner un exemple contradictoire, quand vous achetez un bien dans l'ancien, eh bien là, vous êtes proche des 5,8%. Donc la différence est quand même assez importante. Et puis bien sûr, pour des investisseurs, hein, puisqu'on a une grosse part d'investisseurs aussi qui achètent en l'état futur d'achèvement, ben, ce sont des personnes qui peuvent bénéficier, alors dans certaines zones, là encore, hein, c'est encadré, mais de ce fameux dispositif Pinel, donc avec une défiscalisation.
Les frais de notaire sont réduits. Un exemple d'économie réalisée en comparaison à un achat dans l'ancien.
Alors, si on prend par exemple un prix de vente à 500 000 euros, si vous êtes dans le neuf, ce qu'on va appeler frais de notaire, alors grossièrement, hein, là je me centralise plutôt sur la part impôt qui est vraiment le nerf de la guerre dans ce qu'on appelle les frais de notaire. Dans le neuf, vous allez avoir pour ce prix de 500 000 euros à peu près 2 900, 3 000 euros d'impôt, alors que dans l'ancien, là, attention, ça monte considérablement, on est proche des 29 000 euros.
Donc une économie conséquente.
Extrêmement conséquente, oui.
Est-ce qu'il y a aussi une exonération de la taxe foncière ?
Alors là aussi, c'est encore un intérêt supplémentaire. Vous avez tout à fait raison de le mentionner. On est à 2 années d'exonération de taxe foncière. Donc ce sont vraiment que des plus, on va dire, qui s'accumulent pour favoriser la motivation à acheter en l'état futur d'achèvement. Oui.
En Alsace, aujourd'hui, on peut dire que la majorité des logements neufs sont vendus en VEFA.
Oui, 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 l'écrasante majorité. Hein. Lorsqu'on a des ventes de biens neufs qui se font, et quand on est vraiment tout juste achevé, c'est plutôt lié à des circonstances de la vie, parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a une mutation de mobilité professionnelle. Mais vraiment une très très grosse majorité de VEFA. Ouais.
Alors à quel moment vous intervenez entre le client, le promoteur ? On sait qu'il y a un contrat de réservation. Vous, vous intervenez quand ? Et qu'est-ce que vous vérifiez ?
Ah, plein de choses. Alors, le contrat de réservation, déjà, pour vous expliquer très synthétiquement ce que c'est l'avant-contrat qui doit être signé avant de pouvoir régulariser l'acte de vente en l'état futur d'achèvement au terme duquel vous devenez propriétaire. Et donc, c'est forcément un contrat de réservation par rapport à des dispositions qui sont déjà protectrices à ce stade-là. Par rapport à ce contrat de réservation, nous, on peut intervenir quelquefois à la demande des promoteurs, puisqu'ils vont souvent nous solliciter pour l'établissement, la rédaction de ce contrat de réservation. Mais notre mission au stade de ce contrat de réservation reste là, puisqu'ensuite ce sont les commerciaux qui ont ces contrats de réservation, qui les adaptent aux conditions particulières avec leurs clients, et puis qui vont leur faire signer ces contrats de réservation. Et ensuite, une fois que le dossier est signé, il arrive chez nous à l'étude pour instruction, et ensuite pour que nos équipes puissent préparer vraiment le projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement et déclencher la signature à ce moment-là.
Alors ensuite, il y a le contrat authentique avec donc l'emplacement, la surface, le nombre de pièces. Et vous m'avez dit, parfois, des contrats de 150 pages. Pour le client, c'est compliqué à vérifier tout ça. Donc ça, c'est votre job ?
Oui. Alors nous, avant de pouvoir passer les ventes, on a déjà une mission de contrôle et de vérification qui est fondamentale. Donc tant qu'on ne passe pas les ventes, c'est qu'on a encore des éléments de contrôle, des points de vérification. Et on a d'ailleurs une liste extrêmement précise de points de contrôle, hein, ça s'appelle comme ça, une liste de contrôle des VEFA. Et l'intégralité des points doivent être cochés et validés avant que nous puissions prendre la responsabilité de procéder à la signature de ces actes avec les clients. Donc oui, secteur, d'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu la notion de protection, dans le cadre des ventes en l'état futur d'achèvement, on parle de secteur protégé. Donc c'est lourd de sens et ça montre à quel point le législateur a la volonté de procéder à cette protection de l'acquéreur dans ce cadre-là.
Et dans ce contrat, que vous contrôlez, il y a le délai d'exécution des travaux,
oui,
qui est important.
Oui, très important, parce que ce délai d'exécution des travaux, il va conditionner la date à laquelle les clés vont être remises au client. C'est ce qu'on appelle en fait la livraison. Alors si vous venez par exemple à l'étude aujourd'hui signer un acte d'achat en l'état futur d'achèvement, bah, nous sommes en janvier 2022 et il se peut très bien que la date de livraison soit prévue au deuxième ou troisième trimestre 2023. Donc beaucoup d'intérêt à l'achat en l'état futur d'achèvement, mais ça exige aussi une certaine patience de la part des clients qui n'ont pas la remise du bien l'après-midi même.
Le paiement est sécurisé, il est échelonné. Dans quelle mesure ce paiement est strictement encadré par la loi ?
Alors là aussi, ultra sécurisé, on a un article du code de la construction qui le prévoit. Et le vendeur ne va pouvoir faire des appels de fonds qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Et le législateur prévoit en plus des paliers stricts qui doivent être respectés. Alors, en synthèse, très rapidement, le vendeur ne peut pas vous appeler plus de 35% du prix à l'achèvement des fondations. Ensuite, on a 70% du prix qui peut être appelé à la mise hors d'eau du bâtiment, 95% du prix à l'achèvement de l'immeuble, et puis le solde, en fait, vraiment à la remise des clés au moment de cette livraison.
Donc, on verse l'argent en fonction de la progression de construction du logement.
Exactement. Oui. Et tout ça est validé, en plus, au moment des appels de fonds, par des attestations qui sont établies par le maître d'œuvre, par l'architecte, notamment, de l'opération.
Si le logement reste inachevé, comment l'acquéreur est protégé ?
Alors, il ne peut pas rester inachevé, parce que justement, là encore, comme je vous le disais, secteur protégé, ça fait partie des points de contrôle que j'évoquais tout à l'heure. On ne va pas passer les ventes tant que le promoteur ne nous a pas produit ce qu'on appelle une garantie financière d'achèvement. Et ça, c'est vraiment la garantie fondamentale. Donc concrètement, en quoi ça consiste ? Eh bien, le promoteur a souscrit avec une banque ce qu'on appelle une caution. Et cette banque va se porter caution du vendeur en cas de défaillance financière de sa part pendant le temps de la construction. Donc s'il y avait défaillance financière de la part du vendeur, eh bien la banque devrait financer les travaux pour permettre justement cet achèvement complet. Et c'est d'autant plus sécurisé que les paiements de prix dont on parlait tout à l'heure au fur et à mesure de l'avancement des travaux, tous ces paiements sont obligatoirement payés sur un compte qu'on appelle un compte centralisateur qui est ouvert dans les livres de la banque qui se portent caution. Donc vous voyez, en fait, la boucle est bouclée, si je puis dire, on a vraiment un contrôle financier qui est extrêmement sécurisant.
Donc cette garantie financière d'achèvement, aujourd'hui on ne pourrait plus voir le scandale de Brun Habitat qui avait fait beaucoup de bruit en Alsace grâce à ce système.
Voilà,
en fait, les promoteurs doivent souscrire une assurance auprès de la Banque de France. C'est ça, cette assurance qui a un agrément auprès de la Banque de France.
Alors, petite précision, en fait, la garantie financière d'achèvement, elle est désormais obligatoire pour tous les promoteurs depuis 2015. Il y avait notamment un cas particulier préalablement. Et vous le précisez, les banques qui se portent caution, ce n'est pas n'importe quelle banque. Elles doivent préalablement être agréées par la Banque de France. Donc, vous voyez encore, contrôle supplémentaire.
Comment se déroule la livraison du bien en VEFA le jour de la remise des clés ?
Alors ça, c'est un grand moment pour les clients, les propriétaires, parce qu'ils se retrouvent avec le vendeur dans le logement. La livraison, en fait, c'est vraiment la remise du bien par le vendeur, avec la remise des clés, de façon assez symbolique, et en contrepartie, le versement du solde du prix, des 5 derniers pourcents du prix. Et ce jour-là, les parties vont faire le tour de l'appartement. C'est un petit peu comme un état des lieux, sauf que ça a une force juridique bien plus importante, puisque le client va pouvoir vérifier si son bien est totalement conforme aux points juridiques qui figurent dans la vente en l'état futur d'achèvement, dans l'acte, notamment avec les plans et puis la notice descriptive qui regroupe les différents types de matériaux utilisés pour la construction. Partie privative, partie commune. Donc là, vraiment, c'est l'état des lieux.
Le notaire vient aussi ?
Non, pas du tout.
Non.
Là, nous, on n'intervient pas. C'est vraiment entre les parties. Mais ça permet au client qui prend possession de son appartement de pouvoir indiquer par écrit, notamment, sur un document qu'on appelle un procès-verbal de livraison, s'il y a encore définition à faire. Et juridiquement, c'est ce qu'on appelle des réserves. Et là encore, J'utilise encore ce terme de sécurité, ça revient extrêmement souvent dans notre discussion, c'est que les réserves qui sont émises par le propriétaire, hein, par l'acquéreur, eh bien, elles sont obligatoires pour le vendeur au niveau de la levée de ces réserves, et elles sont à sa charge financière. Donc le vendeur doit faire intervenir les entreprises pour même des petits points de détail, une trace sur un mur par exemple, et la remise en peinture de ce mur.
Alors, concrètement, les recours possibles, vous les avez un petit peu évoqués, mais si je vois des malfaçons, la baignoire qui n'est posée, ce n'est pas celle que j'avais choisie, l'interphone ne fonctionne pas, donc les recours ?
Alors, recours le jour de la livraison, comme je viens de vous le dire, grâce à ce procès-verbal de livraison, obligation du vendeur de lever les réserves, mais vous bénéficiez aussi d'un délai complémentaire d'un mois. Alors ça, c'est extrêmement confortable, parce que, évidemment, vous n'avez pas l'œil, vous n'avez pas l'expertise de ce vendeur au moment de la visite et de la remise des clés. Donc ça va vous permettre, notamment avec la prise de possession du bien, avec l'usage du bien, de vous rendre compte peut-être d'éléments que vous n'aviez pas forcément remarqués au jour de la livraison. Alors, je peux vous donner un exemple concret, hein, ça peut être un volet qui est coincé, vous me parliez de l'interphone qui ne fonctionne pas, pourquoi pas. Eh bien, vous allez faire un courrier en fait complémentaire au vendeur pour lui indiquer qu'il y a tel et tel élément que vous n'avez pas remarqué au jour même de la livraison. Et le vendeur, là encore, doit prendre en compte ces nouvelles réserves que vous lui adressez.
D'accord, donc il est dans l'obligation de résoudre les malfaçons. Et par exemple, 6 mois après, je vois une fissure sur un mur, comment ça se passe ?
Alors, 6 mois après, on est encore dans des délais de garantie. Et notamment, le délai est plus long que ces 6 mois, puisqu'on est dans un délai de 2 ans. Par rapport à ce qu'on appelle une garantie biennale. Alors, la fissure dont vous me parlez, c'est encore un autre cas qui relève éventuellement d'une autre garantie, qui est la garantie décennale.
Donc, il y a deux garanties, la nature de biennale la fissure et décennale.
Voilà. Alors, la garantie biennale, on est avec une garantie pour tout ce qui recouvre le bon fonctionnement des éléments d'équipement. Donc, c'est tout ce que le vendeur installe dans votre logement, que vous pouvez grosso modo démonter.
Eh bien, ça, c'est robinetterie.
Voilà, exactement. Ça, c'est garanti à neuf pendant 2 ans. Donc, d'accord. Là encore, c'est quand même une super sécurité. Et si vous voulez, on est assez serein quand on sait qu'on a ces garanties-là, quand on achète un bien neuf. Et alors, la garantie décennale, là, c'est encore autre chose. C'est une garantie par rapport aux vis de construction qui se manifesteraient dans les 10 ans de la réception. Alors, très, très synthétiquement et concrètement, on est plus dans les vis qui porteraient atteinte à la carcasse de l'immeuble, si vous voulez.
Alors, le bâtiment a pris plus de temps pour être construit. Est-ce que je peux obtenir des indemnités en cas de retard de livraison ?
Tout dépend de la situation. Si le vendeur peut vous justifier de ce qu'on appelle d'un cas de force majeure, c'est un événement qu'il va lui-même subir et qui a des incidences, qui a des conséquences sur le déroulement de son chantier et qui fait qu'il se rend compte à un moment donné qu'effectivement, il va y avoir du retard dans la livraison. Alors, je vous donne là encore un exemple. Hein. En ce moment, avec la pandémie qu'on vit tous, ça a des impacts en termes de construction, en termes de chantier, difficultés d'approvisionnement. Et donc là, du moment où le vendeur vous justifie d'un cas de force majeure, vous subissez aussi le retard et vous ne pouvez pas demander quoi que ce soit comme réclamation ou indemnisation auprès du vendeur.
Il y a des cas particuliers où on peut quand même...
Alors, oui, si
avoir recours.
Oui, si le vendeur est incapable de vous donner, de vous justifier d'un cas de force majeure pour vous expliquer en fait pourquoi ce retard est arrivé, eh bien à ce moment-là, par rapport au préjudice que vous subissez, donc qui varie considérablement d'un propriétaire à un autre, vous allez pouvoir demander au vendeur une indemnisation. Mais là, on est sur vraiment des bases de négociation à l'amiable avec des accords, et ça se passe les rares fois où ça se produit, ça se passe très bien puisque c'est vraiment de la discussion entre le vendeur et l'acquéreur.
D'accord. Bon, bah, je remercie beaucoup Maître Christine Abchaï. En tout cas, on retient qu'il y a beaucoup de garanties avec la VEFA. C'est l'intérêt de la VEFA, de la vente sur plan, la vente en l'état d'achèvement. Merci beaucoup.
Merci à vous.